Bonjour à tous. Septième rencontre hier soir à Washington entre Benjamin Netanyahu et Donald Trump. Une rencontre qualifiée d'excellente et un objectif commun que l'Iran n'est jamais l'arme nucléaire.
L'armée américaine affirme avoir mené en collaboration avec les forces armées saoudiennes des frappes en Irak contre des groupes militants alignés sur l'Iran.
L'Iran qui propose de partager avec Oman la surveillance du détroit d'Ormuz, toujours au cœur des tensions au Moyen-Orient.
L'année 2025 a été la plus meurtrière en matière de violence antisémite au sein de la diaspora depuis 30 ans, avec 20 personnes tuées dans 4 pays. Et enfin en Belgique, la fondation Nico Günzburg, une organisation juive, a assigné en justice la SNCB et l'État belge autour de leur rôle dans la déportation vers Auschwitz. Septième rencontre hier soir entre Benjamin Netanyahu et Donald Trump à Washington. Une rencontre qualifiée d'excellente et un objectif commun, que l'Iran n'ait jamais l'arme nucléaire.
L'entretien a duré environ 1h20 et s'est déroulé sans présence de la presse ni déclaration commune à son issue. Peu après la réunion, le chef du gouvernement israélien a publié une vidéo sur les réseaux dans laquelle il s'est montré particulièrement enthousiaste. Si les problèmes techniques sont finis, on en écoute un extrait.
C'est un pire chat.
Je viens de terminer une excellente rencontre avec le président Trump. Et lorsque je dis qu'elle était excellente, ce n'est pas une simple formule de circonstance. Ce fut une discussion marquée par un partenariat total, un soutien mutuel et une compréhension commune de notre objectif, à savoir garantir que l'Iran ne possédera pas l'arme nucléaire, ainsi que poursuivre d'autres objectifs. C'est l'un des meilleurs échanges que j'ai eu avec le président des États-Unis, Donald Trump. Toute son équipe dirigeante était présente, ainsi que la nôtre. Suit également l'occasion d'échanger des idées et de coordonner des actions importantes pour la sécurité de l'avenir d'Israël.
Le président américain Donald Trump a déclaré lui aussi avoir eu une très bonne rencontre avec Benjamin Netanyahu.
Bien sûr, de nombreux sujets importants ont été abordés, a écrit Donald Trump dans un message publié sur Truth Social. Un message accompagné de 3 photos prises lors de leur entretien dans le bureau ovale. Et puis le contexte de cette visite était pourtant tendu, avec l'intensification par l'Iran des tentatives d'assassinat de responsables israéliens.
Pour des raisons de sécurité, l'horaire de départ vers les États-Unis de l'avion de Benjamin Netanyahu a été tenu secret et son décollage a été transféré de Ben Gurion vers la base aérienne de Nevatim. Des mesures nécessaires quelques jours après l'annonce du démantèlement d'un projet iranien visant à infiltrer en Israël une cellule terroriste chargée d'assassiner de hauts responsables israéliens. Selon le bureau du Premier ministre, les gardiens de la Révolution s'appuient sur des réseaux criminels pour recruter des individus, notamment des Européens, capables d'entrer en Israël, d'y recueillir des renseignements et d'y commettre des attentats. L'opération a été déjouée grâce à la coopération du Mossad, du Shin Bet et de plusieurs services de renseignement. Juste après sa rencontre avec Donald Trump, Benjamin Netanyahu s'est rendu aux obsèques du sénateur républicain, grand ami d'Israël, Lindsey Graham. Et suite aux menaces de Zoran Mamdani, un sondage a été fait. Il montre qu'un Américain sur 2 est favorable à l'arrestation de Benjamin Netanyahu pendant qu'il est aux États-Unis.
Oui, selon un sondage réalisé par The Economist et YouGov aux États-Unis, 49% des personnes interrogées estiment que les États-Unis devraient exécuter le mandat d'arrêt de la CPI si Benjamin Netanyahu entrait sur le territoire américain, contre 27% qui s'y opposent et 23% qui se disent incertains. Le fossé entre les deux camps politiques est net. 68% des sympathisants démocrates soutiennent une arrestation, contre seulement 24% chez les républicains. Environ un cinquième des électeurs ayant voté pour Donald Trump en 2024 partagerait également cette position, de même que 21% des personnes se réclamant du mouvement MAGA. Rappelons que ni Israël ni les États-Unis n'ont ratifié le traité fondateur de la CPI, dont la juridiction ne s'exerce donc pas directement sur leur territoire respectif. La CPI revendique toutefois une compétence sur les territoires palestiniens. Le président Trump a affirmé publiquement que Benjamin Netanyahu ne serait pas arrêté sur le sol américain. L'interception hier de 2 drones au-dessus de la Jordanie remet en lumière le rôle de milices chiites pro-iraniennes actives en Irak.
La plupart d'entre elles opèrent au sein d'Al-Ashdad al-Shabi, les forces de mobilisation populaire. Une coalition créée en 2014 pour combattre Daesh est officiellement placée sous l'autorité du gouvernement irakien. Dans les faits, ces factions sont directement financées, armées et encadrées par l'Iran. Parmi elles, Kateb Hezbollah, qui partage son idéologie, comme son titre l'indique bien, avec le Hezbollah libanais. Elle est considérée comme responsable de nombreux tirs de drones contre Israël, ainsi que d'attaques visant des bases américaines dans la région. Et justement hier, l'armée américaine affirme avoir mené, en collaboration avec les forces armées saoudiennes, des frappes en Irak contre ces groupes terroristes alignés sur l'Iran.
Le commandement central américain et les forces armées saoudiennes ont mené le 28 juillet des frappes de précision en Irak contre des terroristes alignés sur l'Iran, auxquels le corps des gardiens de la révolution islamique avait donné pour ordre d'attaquer les forces américaines et les infrastructures énergétiques saoudiennes. C'est ce qu'a indiqué le commandement central américain dans un communiqué. Les attaques contre les forces américaines n'ont pas abouti, précise l'armée américaine. Une dizaine de membres d'une milice chiite auraient été éliminés lors d'une frappe visant leur base près de Mossoul dans le nord de l'Irak. D'autres ont été blessés lors d'autres frappes. Le corps des gardiens de la révolution islamique et ses mandataires terroristes doivent mettre fin à ces attaques pour éviter une nouvelle riposte militaire américaine, prévient le CENTCOM.
Des drones interceptés par l'armée américaine qui ont été lancés par l'Iran, notamment sur la Jordanie.
Oui, ce qui constitue la première attaque iranienne signalée contre une cible américaine depuis que le président Donald Trump a déclaré ce week-end qu'il mettrait fin aux frappes après 2 semaines de combats. Les forces du corps des gardiens de la révolution islamique ont lancé plusieurs missiles balistiques depuis l'Iran dans le cadre d'une tentative d'attaque contre les forces américaines basées au Moyen-Orient. C'est ce qu'a écrit le CENTCOM sur X, ajoutant que tous les missiles iraniens ont été interceptés avec succès, je cite. En Iran, au moins 1500 condamnés à mort à la prison de Ghezel Essar près de Téhéran sont en grève de la faim depuis le 13 juillet. Ils dénoncent l'accélération des exécutions dans le pays.
Des images tournées à l'intérieur de cet établissement montrent des prisonniers assis dans les couloirs brandissant des pancartes « Non aux exécutions » et appelant l'opinion publique à relayer leur mobilisation. Le quotidien britannique The Guardian assure que certains détenus menacent désormais de se coudre les lèvres faute de réaction de l'administration pénitentiaire. D'autres réclament une assistante médicale urgente pour les grévistes de la faim dont l'état de santé se dégrade. Face à cette protestation, les autorités auraient transféré plusieurs centaines de détenus non condamnés à mort vers d'autres quartiers. Seuls les prisonniers menacés d'exécution resteraient désormais dans l'aile où la mobilisation a commencé. La direction de la prison n'a évidemment fourni aucune explication officielle.
L'Iran propose de partager avec Oman la surveillance du détroit d'Ormuz, toujours au cœur des tensions régionales.
Selon le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Mascat contrôlerait le passage des navires dans une partie du détroit et Téhéran superviserait l'autre. Le responsable iranien s'est exprimé sur une possible reprise du dialogue avec Washington. Il affirme que l'Iran n'a sollicité aucune négociation au cours des 15 derniers jours et que l'initiative viendrait au contraire des États-Unis. Selon lui, l'administration américaine aurait fait savoir par l'intermédiaire d'Oman qu'elle n'envisageait pas de nouvelle opération militaire contre l'Iran. Le sultanat d'Oman joue depuis plusieurs années un rôle d'intermédiaire discret entre l'Iran et les États-Unis. L'Iran qui devrait recevoir dans les prochaines semaines une première livraison de missiles sol-air portables chinois.
Et ce, dans le cadre d'un contrat portant sur 300 à 400 systèmes Manpads. C'est ce qu'ont indiqué Reuters. C'est ce qu'ont indiqué à Reuters, trois sources proches du dossier. Selon ces sources, le contrat estimé entre 60 et 70 millions de dollars prévoit l'acquisition de lanceurs conçus pour intercepter des avions, hélicoptères et drones volant à basse altitude. Il s'agirait de l'un des plus importants achats d'armes de courte portée réalisé par Téhéran depuis le début de son conflit avec les États-Unis et Israël. L'accord aurait été conclu avec une société basée à Hong Kong servant d'intermédiaire entre les autorités iraniennes et le fournisseur chinois. Les premières livraisons devraient transiter par Urumqi dans l'ouest de la Chine avant de passer par le Pakistan vers l'Iran selon les mêmes sources. Tsahal continue de démanteler l'arsenal du Hezbollah.
Les soldats israéliens ont retrouvé au cours des derniers jours des fusils d'assaut de type Kalachnikov, des roquettes anti-char RPG, des charges explosives, des grenades, des chargeurs et d'autres équipements de combat au sud du Liban. L'armée israélienne a déjà mis à jour plus d'1 millier d'armements du Hezbollah depuis le début de sa campagne. Les opérations menées par Tsahal encore aujourd'hui visent à localiser et neutraliser l'arsenal du Hezbollah pour empêcher la reconstitution de ses capacités militaires qui menacent le nord d'Israël. On est revenu sur ce problème de la frontière nord, du Liban et des capacités du Hezbollah à 8h15 avec notre invité Jacques Neria, ancien officier des renseignements militaires et spécialiste du Liban. Vous pouvez retrouver cet entretien comme tous nos autres entretiens sur le site internet radiojudaica.be et sur l'application Radio Judaïca.
L'accord nucléaire entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite transmis au Congrès ne sera pas conditionné à une normalisation avec Israël.
L'accord de coopération doit être transmis cette semaine au Congrès américain pour examen. Il ne comporterait finalement aucune disposition conditionnant sa mise en œuvre à une normalisation des relations entre Riyad et Jérusalem. Après la signature de l'accord, le président américain avait pourtant affirmé qu'il serait subordonné à une adhésion de l'Arabie Saoudite aux accords d'Abraham. Mais lundi, Donald Trump a reconnu ne pas avoir abordé cette question avec les dirigeants saoudiens. Affaire à suivre. L'année 2025 a été la plus meurtrière en matière de violence antisémite au sein de la diaspora juive dans le monde depuis l'attentat à Buenos Aires en 1994.
Oui, c'est selon un nouveau rapport du groupe de travail contre l'antisémitisme des grandes communautés du G7, à savoir l'Argentine, l'Australie, le Canada, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui regroupent 90% des juifs de diaspora. Publié ce matin, ce rapport de l'Anti-Defamation League recense 20 victimes d'attaques antisémites ciblées à travers le monde en 2025. Parmi ces événements figure le massacre de Hanouka à Bondi Beach à Sydney qui a fait 15 morts, la fusillade à la synagogue de Heaton Park à Manchester le jour du Yom Kippour, les deux personnes tuées au Capitol Jewish Museum à Washington DC, ainsi qu'une personne tuée à Boulder dans le Colorado. Le groupe du travail du G7 a recensé plus de 23 000 incidents antisémites pour la seule année 2025. Si le nombre total d'incidents a légèrement baissé dans quelques pays par rapport au niveau record de 2024, les chiffres globaux restent en hausse de 136% et les incidents violents de 97% par rapport à l'année de référence 2022. C'est pourquoi on vous pose la question du jour pour demain. 2025, année record pour les actes antisémites dans le monde. 2026 sera-t-elle meilleure ?
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en visite à Washington, lui aussi a affirmé dans une interview à la chaîne américaine Fox News que l'initiative n'était plus entre les mains de Poutine dans la guerre en Ukraine.
Vladimir Poutine perd 30 000 de ses soldats par mois. C'est beaucoup de pertes, mais il ne veut pas arrêter cette guerre. C'est ce qu'a affirmé le président ukrainien sur la chaîne américaine. Le secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, avait rejeté dans une vidéo partagée sur le réseau social Telegram ce tout nouvel appel massif à la mobilisation comme avancé par l'Ukraine. Il a en outre avancé le nombre de 200 000 volontaires engagés dans les forces armées au premier semestre. Nous demandons d'arrêter cette guerre chaque jour au minimum pour négocier un cessez-le-feu pour une certaine période et donner la possibilité aux diplomates de négocier. Mais Vladimir Poutine ne le veut pas. C'est pourquoi nous devons répondre, être dur, être fort. Pas seulement nous, nous comptons sur les sanctions, a encore soutenu le président ukrainien. La Maison-Blanche, par la voix de sa porte-parole Caroline Leavitt, a elle qualifié la rencontre avec le président des États-Unis Donald Trump de positive et productive sur X sans plus de précision.
La préparation d'un 22e paquet de sanctions européennes contre la Russie est actuellement en cours au sein du Service européen pour l'action extérieure.
L'Union européenne a pour intention de sanctionner pas moins de 1600 entreprises pour leur soutien à la Russie dans la guerre contre l'Ukraine. Il s'agira alors du plus important nombre d'entités ajoutées en une fois aux sanctions, selon l'agence Bloomberg. Les entreprises que le Service européen pour l'action extérieure propose de viser totalisent un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 milliards d'euros et emploient plus de 265 000 personnes. En cas d'approbation d'un paquet tel quel, le nombre d'entités sanctionnées par l'Union européenne en lien avec la guerre en Ukraine bondirait de 50% selon Bloomberg, qui a appris cela de sources souhaitant rester anonymes.
La fondation Nico Günzburg, une organisation juive, a assigné en justice la SNCB et l'État belge pour leur rôle dans la déportation vers Auschwitz.
L'organisation réclame des dommages et intérêts et une reconnaissance de responsabilité pour les déportations survenues pendant la Seconde Guerre mondiale. Concrètement, il s'agit des 28 convois qui ont quitté la caserne d'Ossin à Malines entre août 42 et juillet 44. Ces trains se rendaient presque tous directement au camp d'extermination d'Auschwitz en Pologne. À leur bord se trouvaient principalement des juifs, environ 25 000 ainsi que quelques centaines de Roms et de Sintés. Plus d'un millier d'entre eux seulement ont survécu à la guerre. À l'époque, la SNCB était payée pour collaborer avec l'occupant allemand, comme l'ont déjà révélé les recherches de l'historien Nico Wouters. L'État belge étant actionnaire de la SNCB, les pouvoirs publics sont également poursuivis. Des discussions avaient déjà eu lieu avec la SNCB et le gouvernement, mais elles n'ont jusqu'à présent abouti à rien. Dès que l'État belge et l'entreprise ferroviaire seront à nouveau disposés à s'asseoir à la table des négociations pour discuter des indemnisations, l'action en justice pourra être suspendue.
En Belgique, toujours, hein, on est passé en mode alerte chaleur. Le mercure va grimper aujourd'hui jusqu'à 35 degrés.
Les maxima vont à nouveau titiller les sommets aujourd'hui avec des températures pouvant atteindre 34, voire 35 degrés par endroit selon les prévisions quotidiennes de l'Institut Royal Météorologique. Une alerte jaune à la chaleur est prévue aujourd'hui sur l'ensemble du territoire et couvrira encore une majeure partie du pays jusqu'à dimanche inclus. Aujourd'hui, il y aura du soleil et de la chaleur avec un thermomètre qui affichera 30 à 32 degrés en Ardennes et à la côte, 32 à 34 degrés ailleurs, voire 35 degrés le long de la frontière française et en Campine. Le vent soufflera faiblement, puis parfois modérément de secteur sud à ouest. Et puis on finit sur une note positive. Israël célèbre aujourd'hui à Tou B'Av le 15 du mois d'Av, considéré comme la fête juive de l'amour.
À l'époque du Temple de Jérusalem, cette journée était consacrée aux rencontres. Pour se marier, les jeunes filles mettaient des robes blanches et se les empruntaient les unes aux autres pour ne pas faire de différence entre les riches et les modestes. Elles allaient ensuite danser dans les vignotures de Jérusalem sous le regard des jeunes hommes venus chercher l'âme sœur. À l'occasion de Tou B'Av, le Bureau central des statistiques d'Israël publie les derniers chiffres du mariage. En 2024, plus de 53 000 couples se sont unis devant les autorités religieuses. C'est une hausse de 10% par rapport à 2023. 71% de ces mariages concernaient des couples juifs et 26% des couples musulmans, 1,8% des druzes et 1,3% des chrétiens. Sur le long terme, les Israéliens se marient moins et plus tard. L'âge moyen du mariage est passé à 27,3 ans pour les hommes et 25,6 ans. Pour les femmes, le nombre de couples vivant en union libre a presque triplé en 25 ans. Le célibat progresse lui aussi fortement. Parmi les juifs âgés de 25 à 29 ans, 65% des hommes et 53% des femmes ne s'étaient encore jamais mariés. Il y a eu également plus de 8000 mariages célébrés à l'étranger. 54% des juifs concernés ont choisi de convoler aux États-Unis, 24% à Chypre. Des unions qui concernent souvent des couples qui ne peuvent pas ou ne veulent pas passer par les institutions religieuses israéliennes. En tout cas, en cette journée de Tou B'Av, on souhaite à tous les amoureux qui nous écoutent une bonne fête.